Il se secoua, agita la main devant son visage comme pour chasser les idées peu honnêtes, puis il fit le signe de la croix. « Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Tu vois, depuis bien des années, il se passe des choses honteuses dans ce pays, même dans les monastères, à la cour papale, dans les églises. Lutte pour conquérir le pouvoir, accusation d'hérésie pour soustraire une prébende à quelqu'un. Quelle vilaine époque ! Je suis en train de perdre confiance dans le genre humain. Je vois partout complots et conspirations de palais. C'est à cela que devait se réduire aussi cette abbaye, un nid de vipères surgi par magie occulte dans ce qui était une chasse de membres saints. Regarde le passé de ce monastère. » Il nous indiquait du doigt les trésors épandus tout autour, et, omettant croix et autres objets sacrés, il nous dirigea vers les reliquaires qui constituaient la gloire de ce lieu. « Regardez, disait-il, c'est la pointe de la lance qui perça le côté du Sauveur. » Il s'agissait d'une boîte d'or au couvercle de cristal, où, sur un coussinet de pourpre, reposait un morceau de fer triangulaire, déjà rongé par la rouille, mais ramené maintenant à une vive splendeur par les huiles et les cires longuement travaillées. Mais ceci n'était encore rien. Car, dans une autre boîte d'argent constellée d'améthystes, et dont le couvercle était transparent, je vis un morceau de bois vénérable de la Sainte Croix, ramené dans cette abbaye par la reine Hélène elle-même, mère de l'empereur Constantin, après qu'elle s'était rendue en pèlerinage sur les lieux saints et avait exhumé la colline du Golgotha et le Saint-Sépulcre avant d'y faire construire une cathédrale. Ensuite, Nicolas nous fit admirer d'autres choses, et je ne saurais rendre compte de toutes, vu leur quantité et leur rareté. Il y avait dans un reliquaire, tout d'aigue marine, un clou de la croix. Il y avait dans une ampoule posée sur un lit de petites roses fanées une partie de la couronne d'épines, et dans une autre boîte, toujours sur un tapis de fleurs fanées, un lambeau jauni de la nappe de la dernière scène. Et puis il y avait la bourse de Saint Matthieu, en maille d'argent, et dans un cylindre, noué par un ruban violet et limé par le temps et scellé d'or, un os du bras de Sainte Anne. Je vis, merveille des merveilles, surmonté d'une cloche de verre et placé sur un coussin rouge festonné de perles, un fragment de la mangeoire de Bethléem et un empan de la tunique purpurine de Saint Jean l'Évangéliste, deux des chaînes qui serrèrent les chevilles de l'apôtre Pierre à Rome, le crâne de Saint Adalbert, l'épée de Saint Étienne, un tibia de Sainte Marguerite, un doigt de Saint Vital, une côte de Sainte Sophie, le manteau de Saint Théobane, la partie supérieure de l'omoplate de Saint Jean Chrysostome, la bague de fiançailles de Saint Joseph, une dent de Saint Jean-Baptiste, la verge de Moïse, un point de dentelle déchiré et minuscule de l'habit nuptial de la Vierge Marie. Et puis d'autres choses, qui n'étaient pas des reliques, mais n'en représentaient pas moins des témoignages de prodiges et d'êtres prodigieux de terres lointaines, ramenés à l'abbaye par des moines qui avaient voyagé jusqu'aux extrêmes confins du monde. Un basilic et une hydre empaillée, une corne d'unicorne, un œuf qu'un ermite avait trouvé à l'intérieur d'un autre œuf, un flocon de la manne qui nourrit les Hébreux dans le désert, une dent de baleine, une noix de coco, l'humérus d'une bête antédiluvienne, le croc d'ivoire d'un éléphant, la côte d'un dauphin. Et puis encore d'autres reliques que je ne reconnus pas, dont les reliquaires qui les contenaient étaient peut-être plus précieux, et certaines, à en juger d'après la facture de leur contenant, d'argent noirci, très anciennes. Une série infinie de fragments d'eau, d'étoffe, de bois, de métal, de verre. Et des flacons avec des poudres foncées, dont je sus que l'un d'eux renfermait des débris calcinés de la ville de Sodome, et un autre de la chaux des murailles de Jéricho. Toutes choses, fussent les plus modestes, pour lesquelles un empereur aurait donné plus d'un fief, et qui constituaient une réserve non seulement d'immenses prestiges, mais aussi d'authentiques richesses matérielles pour l'abbaye qui nous donnait l'hospitalité. Abasourdi, je continuais cette exploration, tandis que Nicolas avait désormais cessé de nous illustrer les objets, qui d'ailleurs étaient décrits chacun par un cartouche, libre maintenant de musarder presque au hasard à travers cette réserve de merveilles inestimables, tantôt admirant ces choses en pleine lumière, tantôt les entrevoyant dans la demi-obscurité, quand les acolytes de Nicolas se déplaçaient vers un autre point de la crypte avec leurs torches. J'étais fasciné par ces cartilages jaunis, mystiques et répugnants à la fois, transparents et mystérieux, par ces lambeaux de vêtements d'époques immémoriales, décolorés, effilochés, parfois enroulés dans une fiole comme un manuscrit défraîchi, par ces matières en miettes se confondant avec l'étoffe qui leur servait de couche, saint détritus d'une vie jadis animale et rationnelle, et maintenant prisonnier des édifices de cristal ou de métal qui mimaient dans leurs minuscules dimensions la hardiesse des cathédrales de pierre, avec leurs tours et leurs flèches, semblant transformer eux aussi en substances minérales. C'est donc ainsi que le corps des saints attend enseveli la résurrection de la chair? C'est à partir de ces échardes, de ces esquilles, que se recomposeraient les organismes qui, dans la splendeur de la vision divine, recouvrant toute leur sensibilité naturelle, ressentiraient, comme écrivait Piperno, jusqu'aux minimas differentias odorum. De ces méditations me tira soudain Guillaume, qui me touchait à l'épaule. « Moi, je remonte, dit-il. Je grimpe au scriptorium, j'ai encore quelque chose à consulter. » « Mais il sera impossible d'avoir des livres, dis-je. Bensé a reçu l'ordre, il me faut seulement examiner encore les livres que je lisais l'autre jour. Ils sont encore tous sur la table de Vénantius. Toi, si tu veux, reste ici. Cette crypte est un bel épitomé des débats sur la pauvreté auxquels tu as assisté ces jours-ci. Et maintenant, tu sais pourquoi les frères de ton ordre s'écharpent lorsqu'ils aspirent à la dignité abbatiale. Mais vous croyez à ce que vous a suggéré Nicolas ? Les crimes concernent alors une lutte pour l'investiture ?
Je t'ai déjà dit que pour l'heure, je ne veux pas hasarder d'hypothèses à voix haute. Nicolas a dit beaucoup de choses, et certaines m'ont intéressé. Mais à présent, je vais suivre une autre piste encore, ou peut-être la même, par un autre bout. Et toi, ne t'extasie pas trop sur ces chasses. Des fragments de la croix, j'en ai vu quantité d'autres, dans d'autres églises. S'ils étaient tous authentiques, notre Seigneur n'eût pas été supplicié sur deux planches croisées, mais sur une forêt entière. « Maître, dis-je scandalisé, il en va ainsi, Atso. Il y a des trésors encore plus riches. Jadis, dans la cathédrale de Cologne, je vis le crâne de Saint Jean-Baptiste à l'âge de 12 ans.
« Vraiment ? » m'exclamai-je tout admiratif. Puis un doute me saisit. « Mais Jean-Baptiste fut tué à un âge plus avancé. »
« L'autre crâne doit se trouver dans un autre trésor, » dit Guillaume le plus sérieusement du monde.
Je ne comprenais jamais quand il se mettait à plaisanter. Dans mes contrées, lorsqu'on plaisante, on dit une chose et puis on rit très bruyamment, de façon que tous les présents participent à la plaisanterie. Guillaume, au contraire, riait seulement quand il disait des choses sérieuses, et il gardait tout son sérieux quand sensément il plaisantait.